Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Philippe Robuchon.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. À 4 jours des annonces d'Édouard Philippe sur la réforme des retraites, le gouvernement est toujours sous pression. Des rassemblements ont eu lieu aujourd'hui dans la plupart des grandes villes, comme à Marseille, nous serons dans un instant. À Nantes, des Black Blocs se sont attaqués à la préfecture. En Seine-et-Marne, des inconnus ont tagué le domicile d'un policier. À Strasbourg, le marché de Noël est plombé par une affluence en baisse. Dossier complet dans ce journal. À suivre également, le vote mouvementé des Algériens de France avant la présidentielle sans grand enjeu de la semaine prochaine. L'accusé du procès d'Élodie Kulik, Willy Bardon, toujours dans un état grave. Il a tenté de se suicider hier soir après le verdict qui le condamne à 30 ans de prison. Et puis au milieu de cette actualité bien sombre, malgré tout, l'esprit de Noël, on va essayer. Reportage dans les magasins parisiens où la carte bleue a chauffé aujourd'hui. Football, 17e journée de Ligue 1. Le leader, Paris Saint-Germain, en déplacement à Montpellier. Match commencé depuis une demi-heure. Éric Martin, bonsoir, où en est-on ?
Bonsoir, donc 0 partout. Partout ici au stade de la Mosson, on joue depuis 29 minutes de jeu. Les Montpelliérains qui dominent ce début de partie. À noter déjà 2 blessés côté parisien, Kimpembe et Gueye, qui sont sortis sur blessure il y a quelques minutes.
Merci Eric. En Coupe d'Europe de rugby, enfin une victoire pour Lyon. Le Loup a battu les Italiens de Trévise 28-0. Quant à la rencontre La Rochelle-Glasgow, elle est quasiment terminée à quelques secondes de la fin. Les Rochelais sont menés 27-24. Les courses, Quintet Plus cet après-midi à Vincennes. Il fallait jouer le 9, le 2, le 5, le 10 et le 13. 18h25 sur RTL, mon métier, ma passion, avec vous, Armelle Lévy, bonsoir.
Bonsoir.
On rencontre qui ce soir ?
Olivier Péan, il parle 3 langues, il est interprète, mais attention, interprète, ce n'est pas traducteur.
À tout à l'heure, Armelle. Le temps, bonsoir, Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
La tendance ?
Nouvelle dégradation pluvieuse pour demain, qui va progresser des côtes de la Manche vers les frontières de l'Est, et cette perturbation sera plus active. Demain, les pluies seront soutenues, et surtout le vent va se renforcer à partir de demain après-midi. On attend d'ailleurs un fort coup de vent dans la nuit de dimanche à lundi sur le quart nord-ouest. Le temps restera sec dans le sud-est avec toujours un ciel lumineux, puis toujours de la douceur pour demain, à 13 degrés demain matin et 7 à 15 degrés dans l'après-midi.
Merci Patricia, prévision complète dans un quart d'heure.
RTL Soir.
Dans 4 jours, mercredi, on saura enfin ce que contient la réforme des retraites. C'est le Premier ministre Édouard Philippe qui en dévoilera le contenu. D'ici là, eh bien, les opposants au gouvernement décident de ne rien lâcher. Dans les transports, les perturbations restent importantes ce week-end. Dans les trains, demain, pas plus d'un TGV sur 6, pas plus d'un TER sur 10. Dans les métros, à Paris, 14 lignes resteront fermées demain dimanche. Ce sera un tout petit peu mieux, ou moins pire, si l'on peut dire, lundi, avec 10 lignes fermées. Pour ce qui est du trafic SNCF de lundi, on devrait le connaître demain dans l'après-midi. La mobilisation reste forte. Les 3 premiers syndicats de la SNCF, CGT, UNSA, Sudrail, ont même appelé à l'amplifier dans les jours qui viennent. Partout, on a défilé aujourd'hui, parfois avec des violences, comme à Nantes, où nous serons dans un instant. Mais la plupart du temps, dans le calme, comme à Marseille, 2000 personnes ont défilé de la gare Saint-Charles au centre-ville à l'appel de la CGT, dans le cortège des cheminots, des fonctionnaires et Jean-Luc Mélenchon, à Marseille pour RTL. Hugo Hamelin.
Oui, c'était une sorte de répétition générale pour le leader de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon cherche à apporter de la constance au mouvement social pour forcer le gouvernement à reculer.
Aujourd'hui, vous savez, il y a des rassemblements un petit peu partout dans le pays. Je pense que c'est une bonne préparation de la journée du 10 où nous devons être très 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 nombreux à l'appel des syndicats. Et nous avons donc pendant les 3 jours, il y aura comme ça de la mobilisation, des grèves reconduites qui vont préparer cette grande mobilisation du 10.
Dans le cortège coloré, les tuniques de la CGT, quelques gilets jaunes également et des manifestants convaincus que le gouvernement d'Édouard Philippe est en train de paniquer.
Sur son calendrier qu'il accélère un peu, on voit bien qu'il y a un petit affolement au vu des discours de tous les ministres et du coup on se dit qu'il y a de bonnes chances pour qu'il recule.
La pression de la rue, je pense que c'est ça qui peut le faire céder. Il n'y a que la pression, sinon il va continuer et après ce sera la sécurité sociale, ce sera tout le reste. Pour moi c'est un petit peu l'opération de la dernière chance. Là.
En tout cas ce ne sera pas la dernière manifestation car la plupart des manifestants ici promettent de se mobiliser encore et encore jusqu'à l'abandon du projet.
Hugo Hamelin, dans les rues de Marseille pour RTL, d'autres rassemblements, je vous le disais, ont eu lieu aujourd'hui contre cette réforme des retraites. À Montpellier, Toulouse ou Lille, on a compté environ 1 millier de manifestants. Dans ce contexte social agité, les manifestants manifestations, mais surtout les perturbations dans les transports, ont évidemment des conséquences désastreuses sur l'économie. L'an dernier, c'était les gilets jaunes. Cette année, c'est surtout la grève RATP et SNCF. Résultat, eh bien, l'activité commerciale avant Noël se retrouve plombée pour la deuxième année consécutive. Écoutez par exemple ce qui se passe à Strasbourg, où en temps normal, le marché de Noël accueille 2 millions de visiteurs. Ce week-end, c'est plutôt mal parti, comme l'explique Pierre Bardet, le directeur des vitrines de Strasbourg.
Ce qu'on ressent, c'est qu'il y a sensiblement un peu moins de monde. On a vu des annulations dans les hôtels, dans les restaurants, et ça pose des problèmes quoi. Pour leur venue. Ils sont inquiets pour le retour, surtout. C'est pas un voyage en toute tranquillité, donc certains préfèrent annuler, peut-être revenir le prochain week-end. Ça nous pose un problème, et on espère que cette grève va s'arrêter, parce que là, ça sera plus problématique. Ah, je pense que ça peut être une catastrophe si ça dure 4-5 jours, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'emplois. Il y a 3 000 emplois qui ont été créés justement pour ce marché de Noël. C'est important. Et donc ça peut jouer sur l'emploi, et pour certains commerçants, c'est 30% ou 40% de leur chiffre annuel. Quoi.
Pierre Bardet, directeur des vitrines de Strasbourg, au micro RTL de Yannick Holland. À Nantes, je vous le disais, la manifestation qui a réuni cet après-midi près de 3000 personnes a pris une tournure violente. Les syndicats ont dû appeler leurs militants à se disperser en raison d'une nouvelle action spectaculaire des Black Blocs. Bonsoir, Nicolas Bobil, s'en sont pris directement aux forces de l'ordre.
Ah oui, absolument. Et tout avait même débuté avant la manifestation de la CGT, puisque des individus ont caillassé les véhicules des CRS. Ensuite, le cortège s'est promené dans les rues de Nantes, comme d'habitude. C'était un cortège contre la précarité. La préfecture de Loire-Atlantique a été attaquée, puisque des individus ont lancé des pierres, des bouteilles, des fusées à l'intérieur de la cour de cette préfecture. Immédiatement, les forces de l'ordre ont répliqué avec des jets de gaz lacrymogène. Ensuite, une mini-pelleteuse sur le cours des 50 otages, qui est le grand cours de Nantes, une mini-pelleteuse a été incendiée, du matériel de chantier utilisé. Et puis, alors là, c'est du jamais vu, il y a eu une véritable horde de manifestants qui s'en est pris au CRS. Et là, cela ne s'invente pas, dans la rue de la Paix, écoutez ces commerçants.
Les chaises qui volaient, les parasols, les pavés, tout, des fumigènes.
Les CRS ont reculé tout au bout de la rue parce que sous la pression des Black Blocs. C'est la première fois que je vois ça en 80 manifestations. On a connu les zadistes, la loi sur le travail, les gilets jaunes. On a vraiment peur, quoi. Je tremble encore. Pourtant, je vous dis, on en a connu, hein. Quelques-unes.
C'est scandaleux, ouais, parfaitement, ouais, parce que ça discrédite le mouvement complètement. Ça sert à rien de faire ça.
À notre connaissance, aucun policier, fort heureusement, n'a été blessé. 3 émeutiers ont été interpellés. La situation semble se calmer ce soir à Nantes. Les manifestants, il y en a toujours, sont concentrés dans le centre-ville où les CRS sont à côté. C'est maintenant le traditionnel jeu du chat et de la souris, comme chaque samedi après-midi à Nantes.
Merci Nicolas Bobil en direct de Nantes pour RTL. Un contexte de violence qui déborde parfois le cadre des simples manifestations. Cette semaine, vous le savez, des policiers des CRS ont déjà reçu des menaces dans des courriers adressés à leur domicile. En Seine-et-Marne, c'est une info RTL, à la porte du domicile d'un policier a été taguée de slogans anti-flics. C'est un fonctionnaire de la BAC qui a fait cette découverte en rentrant de son service de nuit. Bonsoir Alice Moreno.
Bonsoir.
Un nouvel acte, on s'en doute, qui suscite beaucoup d'émotions.
Effectivement, le policier visé, qui fait partie d'une brigade nocturne en Île-de-France, a fait cette inquiétante découverte ce matin aux aurores en rentrant de son service. Sur la porte de son appartement, des inscriptions haineuses, flic suicidé à moitié pardonné, ou encore l'acronyme ACAB, un slogan qui signifie en français « Tous les flics sont des salauds ». Pour Emmanuel Cravello, délégué Alliance Police d'Île-de-France, un tel acte est un nouveau palier franchi dans la haine envers les policiers.
On voit qu'on est encore monté dans l'escalade de la violence psychologique. C'est gravissime de rentrer après une journée de travail et de constater qu'on est clairement identifié et qu'on veut clairement attenter à notre vie. C'est juste pitoyable. On savait déjà qu'il était compliqué dans certaines écoles d'afficher le métier de papa-maman quand on vous demandait le métier des parents. Hein. Fonctionnaire de police, c'était même caché à certains endroits. Et là, on a encore ce degré qui monte d'un cran.
Il réclame que les auteurs soient retrouvés, lourdement sanctionnés. Le policier visé a déposé plainte, une enquête est en cours, tandis que d'autres enquêtes ont été ouvertes ces derniers jours. Après la réception de ces courriers de menaces au domicile, là encore, de nombreux CRS, l'auteur de ces lettres, promettait de s'en prendre aux familles des fonctionnaires.
Merci Alice Moreno. Des opérations escargots, des barrages filtrants. Toute la journée, les routiers de l'OTRE ont fait part de leur colère contre la hausse de 2 centimes de leur taxe sur le gazole. Ils s'estiment désavantagés face à leurs concurrents. concurrents étrangers. Il y a eu environ une quinzaine de barrages au total. La plupart ce soir sont levés. 18h09 sur RTL. Dans un instant, la suite du journal et ce dernier coup de théâtre au procès Élodie Kulik.
RTL Soir.
RTL Soir.
Philippe Robuchon.
Un geste spectaculaire hier soir à la cour d'assises d'Amiens. Une tentative de suicide quelques secondes seulement après un verdict. C'est ce qui s'est passé au procès de l'affaire Kulik. Élodie Kulik, violée et tuée dans des conditions épouvantables en 2002. Le principal accusé, Willy Bardon, venait d'être condamné à 30 ans de réclusion quand il a avalé un cachet, sans doute un pesticide. Depuis, il est en réanimation à l'hôpital d'Amiens. Comment interpréter ce geste? Franck Hanson a posé la question à son avocat, Maître Dacco.
Vous savez, chacun peut l'interpréter de la façon qu'il veut. Il y a ceux qui vont vous dire que c'est le geste d'un coupable, il y a ceux qui vont vous dire que c'est le geste d'un innocent. Moi, pour ma part, le sentiment qui est le mien, c'est que M. Bardon n'a pas supporté cette condamnation parce que il la trouve profondément injuste et n'a pas supporté la perspective de retourner en prison où il a vécu des instants particulièrement durs. Il semblerait qu'il en ait parlé à ses proches. Il a ingurgité ce produit tout de suite. On s'en est pas rendu compte parce que c'était dans notre dos. On a compris puisqu'on s'est tourné vers lui à l'issue du verdict qu'il y avait eu quelque chose et il est très rapidement tombé dans une forme d'apathie. D'ailleurs, on a dû le porté pour le faire descendre et il était sous une forme de somnolence, je ne sais pas comment appeler ça. Mais on n'a pas pu communiquer à part l'appeler et essayer de le stimuler, c'est tout. Pour l'instant, la priorité qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que Willy Bardon sorte de ce coma, aille mieux. Et puis ensuite, on fera le point avec lui sur les intentions qui sont les siennes. Maintenant, j'ose mal imaginer autre chose qu'un appel et de retourner au combat.
Maître Dacco, l'avocat de Willy Bardon, au micro RTL de Franck Hanson. Quant au père d'Élodie Kulik, il s'est, lui, félicité du jugement 30 ans de prison pour Bardon. Dans 5 jours, le 12 décembre, aura lieu l'élection présidentielle en Algérie. 5 candidats sont opposés pour succéder à Abdelaziz Bouteflika. Le fait marquant de la campagne, c'est le désintérêt des Algériens pour ce scrutin. Pire même, une certaine colère face à ce que beaucoup qualifient de simulacre d'élection. Bonsoir Sophie Orange.
Bonsoir.
Les Algériens qui vivent en France ont déjà commencé à voter, notamment au consulat à Paris, où vous vous êtes rendu tout à l'heure.
Avec aussi des manifestants tenus à l'écart de l'entrée du consulat. Ils brandissent des pancartes hostiles au régime, mais pas seulement. Fatia tient un petit papier rouge.
C'est un bulletin de vote. Il n'y a pas de nom, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui est inscrit dessus, qui exprime le refus total de cette mascarade électorale. Le peuple est vraiment conscient de toute leur supercherie.
Les 5 candidats ont débattu hier à la télévision, mais pour Rani Mohamed, cette campagne et son vainqueur n'ont que les apparences de la démocratie.
Il y aura un simulacre, on va dire, un pantin, mais ce n'est pas un président élu d'une façon, on va dire, démocratique.
C'est des anciens ministres de l'ancien système qui a pourri l'Algérie. Ils nous ont fait fuir de notre pays. Ils nous ont trahis, ils nous ont volés.
De l'autre côté de la rue, quelques Algériens viennent voter. Au compte-gouttes, ils doivent traverser une haie de policiers.
C'est important, bien sûr. Il faut voir un président, c'est une démocratie.
Vous entendez les manifestants aussi?
Non, je ne les regarde même pas.
Au départ, j'étais avec le mouvement et là, je suis contre. Et j'espère qu'on aura un président et ça va être bénéfique pour l'Algérie.
Tout est fait pour que les électeurs et les manifestants qui refusent de voter ne se croisent pas. Le consulat sera ouvert jusqu'à jeudi prochain.
Un reportage Sophie Orange. Merci Sophie. Allez, malgré cette actualité un peu lourde, n'oublions pas que nous sommes à un peu plus de 2 semaines de Noël, malgré les grèves, malgré un environnement, disons, compliqué. Vous avez été nombreux aujourd'hui, sans doute, à consacrer cette journée aux achats, aux cadeaux. Bonsoir Thomas Dulin.
Bonsoir.
Vous avez fait vos emplettes dans le quartier Montparnasse à Paris.
Et oui, rue de Rennes, le long des boutiques illuminées, des scènes très hivernales, sapin de Noël porté à bout de bras, papier cadeau sous le coude et évidemment paquet dans chaque main. Et Jean-Philippe, on a pour toute la famille.
Alors là, c'est pour les adultes, tout ce qui est vêtements, souvenirs. Et puis là, maintenant, on va aller s'occuper des enfants. C'est plutôt pas de patrouille et compagnie chez les enfants cette année qu'autre chose.
Pour ce Corse en week-end à Paris, au-delà de la mission cadeau, l'objectif est de profiter.
C'est déjà l'une des plus belles villes de France et à Noël, c'est encore plus beau. Donc voilà, on s'est fait plaisir et on a dit profitons-en. C'est la bonne période, là, c'est les 10 jours qu'il faut. Tout le monde a eu sa paye, c'est plus simple. Puis ça fait toujours plaisir d'en profiter pour faire plaisir aux autres.
Côté boutique, les commerçants attirent les clients avec, il faut le dire, de très bons arguments.
J'ai les caramels, les noisettes et les avec des grains de sésame caramélisés.
C'est sûr, la grève n'aide pas à remplir la boutique de chocolat de Christine, mais elle garde le sourire.
On essaye de voir les choses du bon côté malgré tout. Non, puis le chocolat, c'est vrai que c'est toujours porteur. Voilà. Je pense que ça nous rend de bonne humeur aussi. Voilà.
Bon, évidemment, en bon journaliste, j'ai vérifié. Et c'est vrai, un petit bout de chocolat caramel, ça fait jamais de mal, Philippe.
Et vous nous en avez ramené?
Ça sera pour Noël.
Ouais, voilà. Bon, fini, vous ne rentrez plus dans ce journal. Merci, Thomas Dulin. Un mot du Téléthon 2019, le compteur tout proche de la barre des 30 millions à l'heure où on parle, même si l'émission télé se termine la nuit prochaine. Vous le savez, vous pouvez continuer à faire des dons au 36-37 ou sur le site internet AFM Téléthon. On revient au sport, la Ligue 1, on fait le point sur le match en cours, Montpellier-PSG, Eric Martin.
Les Montpellierens qui sont très bien rentrés dans cette partie, ce sont eux qui mènent 1-0. Le but de Leandro Paredes contre son camp sur une tête contrée de Daniel Congrès. A noter ce coup dur pour le coach du PSG qui a déjà fait deux changements, Gay et Kimpembe, et qui sont sortis sur blessure. Et donc, ce sont donc les Montpellierens qui mènent 1-0. On est dans les arrêts de jeu de la première période.
Merci Eric. Ce soir, quatre autres rencontres à 20h. Monaco-Amiens, Nice-Metz, Rennes-Angers et Strasbourg-Toulouse. À suivre dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France, animé par Christian Olivier et Philippe Sansfourche. Un tout petit mot de rugby, juste pour vous confirmer que c'est terminé entre La Rochelle et Glasgow. Malheureusement, les Rochelais ont perdu à domicile 27-24. Patricia Charbonnier, rebonsoir.
Rebonsoir.
Demain, une nouvelle dégradation pluvieuse et en plus du vent.
Oui, la période de temps calme s'est terminée. On a déjà eu une première perturbation pas très active aujourd'hui qui a donné surtout un temps gris et quelques pluies faibles, mais celle qui va arriver demain sera nettement plus active. Elle va traverser quasiment tout le pays entre les côtes de la Manche vers les frontières de l'Est dans l'après-midi avec des pluies soutenues et du vent, et surtout le vent qui va se renforcer à partir de demain en fin d'après-midi dans un premier temps sur les côtes de la Manche. Beaucoup d'instabilité dans l'après-midi sur les côtes de la Manche, des averses localement fortes et orageuses et des vents jusqu'à 90 km/h en rafale. Et dans la nuit de dimanche à lundi, on attend un fort coup de vent sur tout le quart nord-ouest du pays, alors qu'à l'opposé du côté de la Méditerranée, ce sera moins ensoleillé qu'aujourd'hui, mais le temps restera sec avec un ciel lumineux, le tout dans des températures qui sont reparties à la hausse. C'est un redout pour demain, 1 à 13 degrés demain matin avec 5 degrés à Colmar, 10 degrés à Biarritz, 13 à La Rochelle et Paris ainsi qu'à Cherbourg, et dans l'après-midi de 7 à 15 degrés, 7 degrés à Clermont-Ferrand, 10 degrés à Orléans, 13 à Paris, 14 à Bordeaux et jusqu'à 15 degrés à Nice et Perpignan. Et ce sera encore très instable lundi avec de fortes averses, de fortes rafales de vent et de la neige en montagne.
Sympa ce mois de décembre. Merci Patricia Charbonnier. 18h19, dans un instant, mon métier, ma passion avec Armel Lévy.
RTL Soir.
Mon métier, ma passion, Armel Lévy.
Armel, chaque samedi, vous nous faites découvrir des amoureux de leur métier. Ce soir, on part à la rencontre d'Olivier Péan. Il exerce un métier original, il est chef-interprète.
Oui, cela fait 19 ans qu'Olivier est interprète à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique à Paris.
Là, on est au niveau du couloir d'accès aux cabines des interprètes qui donne sur les salles de conférence de l'OCDE.
Une fois installé dans sa cabine vitrée, située juste au-dessus de la table de conférence, Olivier, un micro-casque sur les oreilles, traduit les propos des 36 représentants de l'OCDE.
On est en cabine et pendant notre demi-heure, si ça parle anglais dans la salle, on traduit vers le français. Et si d'un coup ça parle français dans la salle, on interprète vers l'anglais. Donc ça fait une demi-heure complète ou quoi qu'il arrive, pendant 30 minutes, on ne va pas arrêter de parler. Alors pour conclure... Nous l'avons vu dans le numérique, nous l'avons vu dans le domaine du climat.
Alors restaurer. Olivier est interprète, pas traducteur.
Le traducteur traduit, l'interprète interprète. Et ce qui signifie que le traducteur traduit à l'écrit, alors que l'interprète interprète ou traduit, puisque c'est le même exercice, mais à l'oral. Ce sont deux métiers différents, avec des formations différentes notamment.
Alors, est-ce qu'Olivier a des origines britanniques, américaines, pour être aussi à l'aise avec les langues étrangères ?
Pas du tout. Il est né ici, et ses parents aussi.
Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est le goût des langues, des cultures étrangères, et l'envie aussi d'être cette passerelle entre différents mondes qui ne se comprendraient pas forcément dans la même langue.
Et c'est vrai qu'il ne faut pas créer un incident diplomatique à cause d'une erreur de traduction. Pour atteindre un tel niveau, Olivier Péan a beaucoup voyagé et il a fait l'ESIT, l'école supérieure d'interprètes et de traducteurs à Paris.
Les langues, c'est un outil, mais par contre, il faut apprendre à en faire quelque chose. Et le quelque chose, eh bien, c'est justement cette analyse du discours, cette réflexion, cette capacité à synthétiser le propos de quelqu'un. La difficulté n'étant pas tant d'arriver à écouter et à parler en même temps, c'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est l'analyse et la compréhension de ce que veut dire l'orateur. Pas ce qu'il dit, pas les mots, mais ce qu'il veut dire. Sans trahir sa pensée et sans aller trop loin non plus dans l'interprétation, au sens fort du terme, dans le jugement qu'on pourrait avoir par rapport à ce qu'il dit. On reste évidemment neutre à tout moment. Et c'est là toute la valeur ajoutée des écoles d'interprètes qui vous apprennent justement à faire ça. Et dans les trois temps de l'interprétation, qui sont l'écoute, l'analyse et la restitution, dans ces trois temps-là, le temps principal, c'est le temps de l'analyse. Même si tout ça se fait en quelques secondes, voire nanosecondes.
Olivier a été l'interprète de nombreuses personnalités économiques, politiques, et il a même traduit des acteurs sur des plateaux télé.
Stallone, par exemple, Tom Cruise, par exemple, Barack Obama. On va pas toujours les rencontrer, sauf quand on est dans les sommets pour lesquels on travaille. Auquel cas, on peut être amené à faire des bilatérales entre, à l'époque, Chirac et Bush, par exemple. Ou juste à être en cabine pendant la conférence de presse à l'issue d'un sommet, auquel cas on ne les rencontre pas directement, mais on est quand même là, au cœur de l'action, et ça c'est vrai que c'est assez agréable.
Mais quels que soient les sujets, il y a toujours un travail très important de préparation pour être un interprète.
Les interprètes sont prévenus à l'avance, une semaine à l'avance, qu'ils vont être affectés à cette réunion en particulier, et donc ils reçoivent toute une kyrielle de documents qu'ils sont invités à lire ou à consulter pour comprendre de quoi il s'agit. Et sur la base de leur lecture, ils vont pouvoir s'élaborer leur propre petit glossaire avec, pas beaucoup, mais peut-être une quinzaine, vingtaine, une trentaine de mots qui sont des mots-clés techniques qu'ils n'auraient pas forcément su au préalable, mais qui leur permettra de survivre en réunion pour ne pas buter sur un terme technique.
En tant que chef interprète à l'OCDE, Olivier travaille avec 10 interprètes permanents et une centaine d'interprètes extérieurs quand les besoins le nécessitent.
Très intéressant, Armel. Merci beaucoup. Ça me rappelle la blague de Coluche. Vous parlez trois langues et ben vous collerez les timbres. Merci, Armel. À la semaine prochaine.
En France,